Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 14. L'état de Pierre, dès les premiers jours qui suivirent l'opération, fut reconnu excellent. Rien ne faisait prévoir d'accident. Le docteur Hébert estima qu'il pouvait donner suite à son projet en procédant à l'exécution de la seconde partie du programme qu'il avait arrêté dans son esprit. On sait que l'excellent homme avait décidé de faire de son protégé un sujet digne de tenir une place convenable dans la société. Pour cela, une chose s'imposait tout d'abord, faire donner de l'instruction à celui qui, la veille encore, n'était qu'un pauvre rémouleur. Un matin, donc, arrivé de bonne heure à l'hôpital pour faire sa visite quotidienne, le docteur Hébert prit Pierre à partie et lui dit, sur le ton quelque peu bourru qu'il affectait quand il était en pleine bonne humeur, « Ah ça, nous voici maintenant tout gaillards. Nous mangeons, buvons et dormons comme un millionnaire. Il faudrait cependant songer à employer les 12 heures de la journée à faire autre chose que des réflexions qui, j'en suis persuadé, doivent être toujours à peu près les mêmes. À ce jeu-là, on engraisse et l'on prend des forces sous l'influence du sang régénéré. Cela serait suffisant si, en quittant ce lit, nous devions reprendre la boutique et recommencer notre métier de rémouleur. Mais ce n'est plus à ce rude métier que nous allons désormais consacrer notre temps. Car, ajouta le médecin d'un air légèrement ironique, ce n'eût guère été la peine de te redresser la patte et de te faire une structure correcte si tu devais, comme devant, crier par les rues la formule employée par les gens de ton métier. Pour rester rémouleur, tu pouvais tout aussi bien continuer à boiter. Donc, mon garçon, il s'agit de t'enseigner ce que tu ignores, c'est-à-dire tout. D'abord, sais-tu lire? Personne ne m'a jamais appris ça, monsieur le médecin. Bon, voilà une façon de t'exprimer qui conviendrait assurément à un rémouleur. Mais quand tu causeras avec des gens bien élevés, tu ne pourrais décemment avaler la moitié des syllabes ainsi que tu viens de le faire. Pierre rougit en regardant le docteur qui avait l'air de le sermonner. Il semblait ne plus oser parler dans la crainte de faire relever encore les incorrections de son langage. M. Hébert reprit alors avec son bon sourire paternel. « Ne rougis pas ainsi. Je conviens que ce n'est pas ta faute si l'on a négligé de t'envoyer à l'école quand tu étais enfant. Mais depuis, lorsque tu as eu l'âge de raison, est-ce que tu n'aurais pas dû avoir, ne fût-ce que par curiosité, l'idée de savoir comment on arrive à lire couramment et à écrire de même ?» Oui, monsieur le médecin, j'ai essayé moi-même, dans un livre de messe que l'on avait trouvé un matin à la porte de l'église. Qui on? Ta... Et se reprenant. La Frochard? Oui. Et tu as éplé? Je me suis fait apprendre les lettres par un autre qui savait lire. Et chaque fois que je rentrais chez nous, avant le retour de l'autre, je prenais le livre et je tâchais de me rappeler les lettres. Et comment on les prononçait? C'est comme ça que je commençais à savoir lire. Un peu, bien peu, quand j'ai tout planté là. Tout d'un coup, n'est-ce pas? C'est toujours ainsi que cela arrive. On est bien décidé pendant quelques jours, on est tout feu, tout flamme, puis crac, on abandonne tout un beau matin. Non, monsieur le médecin, c'était un soir, fit Pierre d'un air triste et baissant la voix. Un soir? Demanda le médecin surpris. Oui, monsieur le médecin, un soir. Que l'on était revenu, pas seul, c'est-à-dire qu'on ramenait une jeune fille que nous avions rencontrée. Louise, l'aveugle? Pierre baissa les yeux et ses joues s'animèrent d'une vive rougeur. Alors, reprit le docteur, c'est à partir de ce moment que tu as cessé d'apprendre à lire. Pourquoi? C'est que, balbutia le jeune homme, tout était changé, bouleversé dans ma vie. J'avais d'autres occupations, et beaucoup plus que d'habitude. Et s'animant, il fallait travailler plus fort que je me disais, puisqu'il y avait quelqu'un de plus à nourrir. Et puis, je profitais du temps que j'avais de reste, quand on nous laissait seuls, pour causer avec mamzelle. Oui, oui, je sais ce que tu veux dire, interrompit M. Hébert, dont la voix devint plus grave. On te laissait seul pour surveiller la pauvre aveugle que l'on martyrisait. Je sais cela. Je n'ignore pas non plus que tu passais ton temps alors à consoler l'infortuné, que le hasard et sa mauvaise étoile avait fait tomber entre les mains de la mégère. « Oui, poursuivit M. Hébert, j'en conviens. Il te restait peu de temps à donner à la lecture. « C'est vrai, monsieur le médecin. Ce jour-là, je n'ai plus ouvert le livre. » Il poussa un long soupir, puis garda le silence, tandis que M. Hébert semblait, de son côté, réfléchir avant de pousser plus loin ses informations. Il hésitait à amener son protégé à lui faire des confidences. Cependant, le moment lui paraissait propice, et il dit à Pierre. « C'est à partir de cette époque que tu as compris qu'il existe des sentiments ignorés jusqu'alors, qui se manifestent à l'improviste, agitent violemment notre âme et nous font battre le cœur. » Pierre était devenu rouge comme une pivoine, et ses yeux scintillaient. Évidemment, les paroles prononcées par le docteur déterminaient en lui une violente émotion. Il se sentait deviné. Cependant, il ne voulait pas nier. Il garda le silence, et le docteur comprit qu'il avait deviné juste. « Oui, fit-il, la présence de cet infortuné dans votre taudis a éveillé des idées de générosité, des pensées d'affection, de tendresse qui sommeillaient en toi. » Il avait été sur le point de prononcer le mot « amour », mais il eut un scrupule, jugeant qu'il devait épargner au convalescent une commotion trop violente. « C'est bien ce que j'avais pressenti, mon ami, » se contenta-t-il d'ajouter, « et les dispositions que j'ai reconnues en toi m'ont engagé à te donner un maître. » « Un maître d'école ?» interrompit le rémouleur. « Précisément. Un professeur, qui te dégrossira d'abord en quelques leçons, puisque tu es intelligent. Plus tard, et petit à petit, on développera tes facultés physiques et morales. C'est ce que nous appelons l'éducation. Comprends-tu cela, mon ami ?» Pierre répondit par un signe de tête qui voulait passer pour affirmatif. « À merveille. Il suffira pour que nous réussissions que tu aies la ferme volonté de t'instruire. « Oh, pour cela, vous pouvez y compter, monsieur le médecin. » « C'est tout ce que je voulais savoir. Le reste sera l'affaire du professeur qui va venir. »« Ici ? Et quand ?»« Mais ce matin même, j'étais tellement certain que tu accepterais ma proposition que j'ai convoqué, sans t'avoir consulté, le maître que je te destine. » Une lueur de joie éclaira le visage du pauvre garçon. Il n'avait pu supposer que l'on s'occuperait de lui à ce point. Pendant quelques secondes, son imagination fit un travail vertigineux. Il entrevoyait la transformation qu'on se chargeait d'opérer en lui. Il se voyait devenu un homme intelligent, instruit. Et quoi, ce miracle pouvait s'accomplir? Lui, le fils Oni, méprisé de la Frochard? Il deviendrait quelqu'un? Le rémouleur boiteux, sale, misérable d'aspect, et qui n'eût jamais osé prétendre à la moindre petite place dans la société, allait vivre d'une existence nouvelle? Après avoir redressé sa jambe infirme, le digne médecin, qui s'était déclaré son protecteur, se chargerait de continuer son œuvre miraculeuse en le faisant initier aux précieuses connaissances que peuvent seuls acquérir les favorisés de la fortune. Et pour cela, il ne lui fallait qu'une volonté ferme, énergique. Oui, certes, il l'aurait, cette volonté. Il déploierait pour l'étude autant de courage qu'il en dépensait autrefois quand il s'agissait de trotter, du matin au soir, affrontant le vent, la pluie ou la neige, la boutique sur le dos et le ventre creux la plupart du temps. Et transfiguré par cette espérance et cet enthousiasme, Pierre joignit les mains en s'écriant. « Ah, monsieur le médecin, qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour qu'il m'ait envoyé un bienfaiteur, un protecteur comme vous ?» Le brave garçon eut un mouvement comme pour saisir la main du docteur et la porter à ses lèvres. « Assez d'émotion, » commanda M. Hébert. « Du calme, mon ami, du calme. Nous avons tout le temps de parler de reconnaissance. » Le gardien annonça l'arrivée du professeur. M. Hébert le fit introduire aussitôt, et l'amenant devant le lit occupé par le rémouleur. « Voici le sujet, » dit-il avec un sourire. « Un bon, excellent sujet. Vous pourrez le pousser à votre guise. Souvenez-vous, monsieur, que je tiens à ce que vous en fassiez un homme le plus tôt possible. Et maintenant que le docteur n'a plus rien à faire ici, puisque la convalescence marche aussi régulièrement que possible, il va céder la place au professeur. » Et le médecin se retira après avoir échangé un sourire avec son protégé. Les leçons se succédèrent, chaque jour amenant son progrès. L'élève et le convalescent s'en trouvaient on ne peut mieux. Pierre n'avait plus le temps de s'ennuyer, et les heures de loisir que lui laissaient son professeur et son médecin étaient employées par lui à penser à cette chère aveugle qui avait fait battre son cœur et qui l'aimait de toutes les forces de son âme. Et maintenant que son esprit s'ouvrait chaque jour un peu plus, il pouvait se rendre compte de ses impressions et comprendre le genre de sentiment que lui inspirait Louise. 100 fois, depuis qu'il était à l'hôpital, il avait été sur le point de demander au docteur des nouvelles de la jeune fille. Et toujours il avait hésité au moment de commencer la phrase préparée dans sa tête. C'est qu'à présent, Pierre savait exprimer sa pensée autrement qu'au hasard des mots qui lui venaient. Il savait déjà employer certaines tournures de phrases qui provoquaient des réponses sans qu'il eût besoin de questionner directement. M. Hébert ne s'était pas trompé en disant que l'intelligence de son protégé n'avait besoin que de culture pour se développer largement. Pierre ne tarda pas à lui en donner d'incontestables preuves quand un jour le docteur avait décidé de lui faire passer un examen général. « Vous avez là un brillant élève, monsieur, » dit-il au professeur, « et je dois reconnaître que vous lui avez fait faire des progrès très rapides. Continuez tous deux dans cette voie, et je n'aurai qu'à me féliciter de ce que j'ai entrepris. » Mais une fois le professeur parti, « Il ne suffit pas, » dit le docteur, « que tu deviennes un savant. Il faut que je m'assure que mon boiteux ne traînera plus la jambe. C'est là une question qui a aussi son importance, je suppose. » Car je me suis promis de redresser à la fois ton corps et ton intelligence. Allons, voyons cette jambe-là, afin que nous sachions si tu pourras bientôt te lever, et dans combien de temps il te sera permis de faire quelques pas, avec des béquilles. » M. Hébert se mit alors à enlever l'appareil qui maintenait la jambe raccommodée. « Voilà qui va merveilleusement !» s'écria-t-il avec joie. « Jamais je n'aurais mieux réussi une opération de ce genre. » « Alors je pourrai bientôt marcher ?» demanda Pierre avec une pointe d'anxiété. « Tout doux, mon ami, pas encore, pas encore. Et puis, pour commencer, nous nous servirons d'abord d'une bonne paire de béquilles. »« C'est indispensable ?»« Absolument indispensable, mon ami. » Puis souriant. « Tiens, 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 nous avons déjà des idées de coquetterie ? Premier fruit de l'éducation. Je suis étonnée que monsieur, mon protégé, ne m'ait pas encore demandé de lui envoyer le perruquier pour remplacer cette chevelure inculte par une coiffure à la mode. Il faudra faire poudrer la tête de monsieur, afin de lui donner grand air, n'est-il pas vrai? C'est convenu, monsieur Pierre, je vous le promets, et rien ne manquera à votre toilette. » Pierre, confus, voulut balbutier des paroles de reconnaissance. « Bon, bon, nous causerons cela plus tard, » dit le docteur. « Lorsque vous serez tout à fait content de vous, et de moi. » Jusque-là, Pierre n'avait pu trouver le moyen d'obtenir des nouvelles de Louise. Il semblait que le docteur, devinant ce qui se passait dans l'esprit de son protégé, voulut le voir venir sans se prêter à ce que désirait celui-ci. « Je t'attends, mon garçon, » se disait-il malicieusement. « Il faudra bien que tu te décides à m'interroger. Tu y viendras, ce n'est plus qu'une question de quelques jours. » Le docteur ne se trompait pas. Un matin, Pierre, enchanté, ravi de l'heureux résultat de l'opération qu'avait subi sa jambe, témoignait de son admiration pour la science du docteur. Puis, adroitement, il ajoutait. « Et ce n'est pas sans doute le plus beau miracle que vous ayez accompli, monsieur le docteur. » « J'ai, en effet, rencontré des cas bien autrement graves, » répondit celui-ci. « Et il se présente souvent des opérations plus difficiles à pratiquer. » « Oui, » dit Pierre avec hésitation. Sur les organes délicats. Sur les yeux? Précisément, c'est avec la plus grande prudence, la plus grande délicatesse qu'il importe de procéder. Pour la cataracte, par exemple. La cataracte? Serait-ce le cas de Mademoiselle Louise? La phrase lui avait échappé. Pierre avait enfin prononcé le nom qu'il répétait chaque jour, tout bas, lorsque, reportant sa pensée vers les époques douloureuses de sa vie, il évoquait le souvenir de celle qu'il aimait avec ardeur. M. Hébert le regarda, puis il répondit lentement. « Oui, mon ami, Mademoiselle Louise est atteinte de cataracte. Mais il y a autre chose encore, et son cas est un des plus graves qu'il m'ait été donné d'observer dans ma longue carrière de médecin. « Oh mon Dieu !» s'écria Pierre, dont les yeux prirent une expression d'effarement. « Cette pauvre demoiselle serait-elle incurable ?» « Non, il y a lieu de tenter l'opération. Et je m'y prépare depuis longtemps déjà. Depuis que je vous ai entrepris, du reste, mon ami. Car je voulais mener les deux opérations de front, s'il était possible. » Pierre était arrivé peu à peu au comble de l'anxiété. S'il eût osé, il eût pressé le docteur de le renseigner sur les dangers et les chances de succès de l'opération. Mais M. Hébert avait maintenant l'air grave, presque soucieux. Le jeune homme hésita. Il redoutait d'apprendre que le célèbre praticien n'avait que très peu d'espoir, et que s'il tentait l'opération, il pressentait que la jeune aveugle ne pourrait peut-être bénéficier que d'une seule chance sur 100. Ce fut le médecin qui entama de nouveau la conversation. « Ce que nous avons à craindre, dit-il, c'est de nous trouver après l'opération en face d'une complication redoutable. » « Dont vous avez remarqué peut-être les symptômes ? » s'écria Pierre d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Pas précisément, mais je ne suis pas, je l'avoue, sans inquiétude. » Puis passant vivement la main sur son front. « Il faut s'attendre à tout. Je ferai le possible pour réussir l'opération de la cataracte. Mais je serai désarmé en face de la paralysie. »« La paralysie ? » s'écria Pierre, incapable de dissimuler son émotion. Son cœur battait avec force. Un frissonnement agitait ses membres d'une façon si apparente que le docteur lui en fit l'observation. « Je comprends, mon ami, que vous éprouviez des appréhensions au sujet de la chère enfant que vous avez connue, dont vous avez pu apprécier les sentiments exquis. Mais vous devez aussi vous rappeler qu'il vous faut observer encore et très rigoureusement les recommandations que je vous ai faites. Il suffirait d'une imprudence de votre part pour retarder, pour annihiler peut-être, les effets de l'opération que vous avez si courageusement subie. » M. Hébert ne quittait pas des yeux son interlocuteur, et c'est avec la certitude qu'il allait provoquer de sa part une confidence qu'il poursuivit en ces termes. « Je regretterais sincèrement de vous avoir si vivement ému en vous faisant connaître mes appréhensions. S'il devait en résulter quelque aggravation dans notre propre situation... »« Ah, ne regrettez rien, monsieur le docteur. Tout ce que vous venez de me dire, j'en avais le pressentiment, hélas. Et quand, depuis si longtemps, j'hésitais à vous entretenir de l'état de cette pauvre demoiselle, mon cœur avait déjà conçu de douloureux pressentiments. Je sentais qu'un nouveau danger planait sur elle, qui avait déjà tant souffert. » Puis, changeant de ton et s'animant, « Et je vous supplie, monsieur le docteur, de me tenir au courant de ce qui pourra survenir dans l'état de celle à qui nous nous intéressons tous deux. » Pas au même titre, toutefois. Les regards de Pierre s'arrêtèrent sur le visage du docteur, comme pour y découvrir une intention d'ironie. M. Hébert souriait, et c'est de sa bonne voix paternelle qu'il reprit. « Vous ne pouvez pas voir pour cette jeune fille si charmante, malgré sa cécité, si bonne, si douce, si sympathique, les sentiments que j'éprouve moi-même. Je suis le médecin, c'est-à-dire un amant, toujours inassouvi, de la science. » Je m'enthousiasme à l'idée que je vais peut-être rendre la vue à ces pauvres yeux éteints. Je me réjouis à la pensée que le premier regard de celle à qui j'aurai rendu la lumière sera pour moi, que ce regard sera la récompense que j'ambitionne. Chez vous, mon jeune ami, le sentiment n'est pas tout à fait le même. Votre enthousiasme a un autre mobile. Et si jamais vous vous trouvez en présence de Louise ayant recouvré la vue, votre émotion sera d'une toute autre nature. » Pierre ébauchait un geste pour protester doucement. Le docteur l'interrompit. « Ne cherchez pas, mon ami, à me donner le change sur les sentiments qu'avait fait naître en vous la présence de l'aveugle dans le taudis de la rue de l'Oursine. Je les ai devinés depuis longtemps, avant même que vous vous fussiez rendu compte de ce que vous éprouviez réellement. Aujourd'hui, vous savez à quoi vous en tenir, sans doute, sur l'état de votre cœur. Et je vous dis ceci, ne désespérez pas et attendez. » Le docteur Hébert, tout en se montrant très assidu auprès de son protégé, Pierre, ne négligeait pas sa chère aveugle, comme il avait coutume d'appeler Louise. Dans les premiers temps du séjour de celle-ci chez la comtesse de Lignières, il avait espacé ses visites, voulant, disait-il, laisser à la jeune fille le temps de se remettre des émotions qu'elle avait éprouvées. « Elle a besoin que tout son être s'apaise, disait-il à Diane, et je ne commencerai sérieusement le traitement préparatoire, si je puis m'exprimer ainsi, que le jour où j'aurai constaté chez notre jeune ami moins d'impressionnabilité et surtout moins de tristesse. » La comtesse était bien trop enchantée de la tournure qu'avaient prise les choses pour comprendre que le mot « tristesse » prononcé par le médecin avait un sens tout particulier et correspondait à une allusion détournée. Diane promit donc de faire en sorte que sa protégée se sentît tout à fait à l'aise auprès d'elle estimant que cette tristesse ne tarderait pas à disparaître. « Voyons, docteur, disait-elle un jour à M. Hébert, il me semble que notre jeune ami, comme vous dites, est tout à fait calme. Ne serait-ce pas le moment de commencer le traitement qu'elle doit suivre avant l'opération ?» La comtesse se laissait prendre à l'apparente quiétude d'âme de sa fille adorée. Celle-ci dissimulait, on le sait, le trouble de son esprit, ses préoccupations intimes et jusqu'aux larmes qu'elle versait en secret. M. Hébert, lui, n'était pas dupe de cette dissimulation, et pour toute réponse, il secouait la tête comme pour dire à la comtesse qu'il n'était pas encore tout à fait satisfait de l'état de l'aveugle. Alors Diane s'écriait « Mais vous ne voyez donc pas, docteur, que je suis dans l'anxiété la plus vive ? L'impatience de voir réussir l'opération me dévore sans relâche. Je n'ai que des nuits d'insomnie, et si vous tardez encore à pratiquer l'opération qui doit rendre la vue aux beaux yeux de notre Louise, vous aurez bientôt deux malades à soigner au lieu d'une. » « Non, madame la comtesse, non. Vous ne retomberez plus dans cette mélancolie si acharnée qui me faisait craindre pour vos jours. Vous êtes guérie, bien guérie. Vos souffrances avaient, j'en suis intimement convaincue, une cause mystérieuse qui n'existe plus. » Au bout de quelques jours, cependant, M. Hébert put constater chez l'aveugle un changement notable. Louise lui parut avoir éloigné les préoccupations qui avaient assailli son esprit et porté le trouble dans son cœur. La jeune fille n'avait plus cet air triste qui laissait dans la pensée du médecin le champ libre à toutes les suppositions. Elle paraissait absolument heureuse de l'hospitalité qu'elle avait trouvée à l'hôtel de Lignières. « Allons, allons !» lui avait dit à plusieurs reprises M. Hébert. « Je suis content, vous suivez mes conseils. C'est bien là ce que j'attendais de vous, mon enfant. »« Ne devais-je pas vous obéir, monsieur ?» répondait Louise. « À vous qui avez été pour moi une véritable providence ?» J'eusse été la plus impardonnable des ingrates si je n'avais obéi à ce que dans votre bonté vous appelez des conseils et que moi je considérais comme des ordres. Voilà un mot qui sonne mal à mon oreille, mon enfant. Mais qu'importe le mot, puisque je suis satisfait de vous. Dans ces conditions, je ne tarderai pas longtemps à faire tout mon possible pour enlever le voile qui vous empêche d'admirer les merveilles de la nature qui ont autrefois charmé vos regards et vous privent du bonheur de contempler ceux qui vous sont chers. « Henriette, mon amie, ma sœur, que j'aurai du bonheur à revoir tes très aimés !» s'écria l'aveugle avec enthousiasme. « Puis ce sera le tour des personnes pour lesquelles vous avez une affection plus récente. « Madame la comtesse, oh oui, monsieur, vous avez compris combien il me tarde de voir ses traits, qui doivent refléter toute la bonté de son âme. » « Oui, la comtesse d'abord, car c'est elle qui doit avoir la première place dans votre cœur. » Peut-être serez-vous heureuse de voir aussi certaines personnes dont vous ne connaissez que la voix et qui vous ont soutenue, encouragée au milieu de vos souffrances passées. Pendant que M. Hébert parlait, tenant son regard attaché sur le visage de la jeune fille, celle-ci avait baissé les yeux, puis courbé le front, et son sein haletait par l'émotion contenue. Cette scène se passait quelque temps avant l'incendie de la masure de la rue de l'Oursine, et alors que chaque jour, Louise entendait le cri poussé par le rémouleur. « À repasser les couteaux, les ciseaux !» Puis tout à coup, Pierre avait cessé d'annoncer sa présence dans la rue. Louise, on s'en souvient, était retombée de nouveau dans ses rêveries douloureuses. Cependant, elle espérait toujours que la voix de son ancien compagnon d'infortune se ferait entendre d'un moment à l'autre. Elle s'était forgée pour se rassurer 1000 suppositions admissibles, dont la plus persistante était que le rémouleur, indisposé, malade peut-être, s'était trouvé tout à coup dans l'impossibilité de continuer ses courses à travers les quartiers de Paris. Mais elle se disait aussi que dans ce cas, le pauvre garçon avait dû être transporté dans un hôpital et qu'aussitôt guéri, il ne manquerait pas de venir faire acte de présence devant l'hôtel de Lignières. S'arrêtant à cette supposition qu'elle ne tarderait pas à avoir des nouvelles du rémouleur, Louise avait de nouveau chassé les mauvaises impressions qu'elle subissait, la tristesse qui l'avait envahie. Elle n'éprouvait plus qu'une vive impatience quand soudain la sinistre nouvelle de l'incendie de la rue de l'Oursine lui était arrivée apportée par Picard. La malheureuse enfant en éprouva tout d'abord, ainsi qu'on l'a vu, une commotion d'autant plus violente qu'elle était surprise en plein espoir de retrouver un jour le rémouleur. Mais après la première impression, elle s'efforça de dissimuler la douleur qu'elle éprouvait et dont elle ne voulait pas avouer la cause. Comment eût-elle affirmé, qu'après avoir été la victime de l'infâme mégère, la nouvelle de la mort, même horrible de celle-ci, l'affectait à ce point. Elle eut donc été contrainte d'avouer qu'un autre était l'objet de cette profonde douleur qu'elle ressentait. Elle tremblait qu'une trop violente émotion se manifestât en elle lorsqu'elle parlerait de lui, dont le souvenir était sans cesse présent à sa pensée, dont les touchantes consolations résonnaient toujours à son oreille et faisaient battre son cœur. Elle se résigna donc au silence. Elle se contraignait pendant le jour, en présence de ceux qui l'entouraient. Mais le soir, lorsqu'elle se trouvait seule dans sa chambre, elle s'abandonnait tout entière à sa douleur. Elle passait les longues heures de la nuit à déplorer l'horrible sort dont elle croyait que le malheureux Pierre avait été victime. Son imagination la faisait assister à cette mort horrible, épouvantable, au milieu des flammes qui enveloppent le corps d'un linceul ardent, dévorent les chairs et calcinent les os. Alors, ses sanglots, longtemps contenus, éclataient, soulevant sa poitrine, des sanglots incessants, se renouvelant jusqu'à ce que, brisée par la douleur, elle tomba épuisée sur son lit. Puis aux larmes succédait la prière que la jeune fille adressait à Dieu pour le repos de l'âme de celui qui avait été pour elle l'ami des jours de malheur et des épreuves terribles. Après la période violente du chagrin, était arrivé le recueillement ému, s'alimentant des souvenirs et des larmes. Louise se renfermait chaque jour un peu plus dans sa douleur. Le docteur Hébert avait deviné l'état d'esprit de l'aveugle et découvert la cause de cette tristesse qu'il lisait sur les traits de la jeune fille. Il avait attendu quelques jours, supposant que le temps apporterait un changement à cet état qui ne l'inquiétait pas encore. Il continua d'observer Louise jusqu'au moment où il jugea prudent, nécessaire même, d'intervenir. Il profita d'un matin où la consultation devait avoir lieu chez lui, ainsi que cela se produisait au moins une fois par semaine. Il fit en sorte qu'Henriette demeura dans sa chambre pendant la consultation. Et une fois seul avec Louise, il lui dit « Je ne suis pas content de vous, mon enfant. Vous ne suivez plus mes conseils, mais plus du tout. » Louise ne put réprimer un léger tressaillement. « Vous voyez bien que j'ai raison, » continua le médecin, « puisque vous ne pouvez vous empêcher de trembler et que vos lèvres ont subitement pâli et frémissent. » Puis, radoucissant sa voix, « Je pourrais vous faire subir ici un petit interrogatoire. Vous me diriez très probablement la vérité sur la cause de ce changement survenu dans votre façon d'être d'autrefois. Je ne veux pas vous faire l'injure de supposer que vous voudriez prendre des détours et me répondre évasivement. Aussi, puis-je vous dire sincèrement et sérieusement ce que je pense de votre état ?» L'aveugle pâlit. Le docteur Hébert continua. « Je vous ai déjà déclaré, mon enfant, que je n'entreprendrai l'opération que lorsque je me verrai assuré de toutes les conditions de succès. La première de ces conditions est de vous avoir progressivement amené à un état de calme absolu. Y suis-je parvenu ? Non, assurément non. Un instant, j'ai cru que la joie d'avoir retrouvé votre amie Henriette, jointe à l'affectueuse hospitalité que vous receviez à l'hôtel de Lignières, avait réalisé pour vous un bonheur complet. Et je me disais que, désormais, je ne verrais plus votre front s'assombrir de nuages, que je n'aurais plus à constater chez vous des émotions autres que celles qu'éprouve le cœur rendu aux plus douces joies, aux plus charmantes espérances. Il n'en est rien, et vous m'en voyez vivement affectée. C'est pour moi une déception cruelle d'avoir aujourd'hui à constater que vous avez l'esprit inquiet, troublé même, et que par conséquent, vous n'avez plus continué à observer mes recommandations. Vous n'avez tenu aucun compte de mes conseils. Vous avez pleuré la nuit passée encore. C'est en vain que vous essayeriez de le nier. Je le vois clairement. Oui, ses yeux ont pleuré pendant des heures entières, et vous souffrez encore en ce moment. Je ne veux pas rechercher les motifs de cette souffrance que vous voulez me cacher, et que je pourrais peut-être adoucir, de ces larmes que vous dévorez en silence, et dont peut-être aussi je pourrais tarir la source. Eh bien, oui, monsieur le docteur, je souffre, je me désespère depuis le jour où vous avez appris l'incendie de la rue de Lourcine. Et la mort de cette femme, de la Frochard qui vous avait martyrisée. Ce n'est pas seulement sur son sort que je m'apitoyais. Je pensais aussi à lui, à ce pauvre être que l'on faisait souffrir autant que moi-même, parce qu'il me témoignait de la sympathie, de la pitié. Il est mort, hélas, et dans quelle torture, et de quelle mort horrible. Et si Pierre n'avait pas cessé de vivre? « Que dites-vous, grand Dieu ? Je dis que ce brave et digne garçon est vivant, bien vivant. Et si votre douleur n'a pas d'autre cause, séchez vos larmes, cher enfant, car celui que vous pleurez est plein de vie, de santé. Vous me l'affirmez, monsieur le docteur? Sur mon honneur, et j'affirme aussi que vous le reverrez. Ou, pour mieux dire, vous le verrez. Est-ce possible? Je vous le promets. Mais où? Comment? Laissez-moi le soin de décider cela. Quand je le jugerai convenable, je vous mettrai en présence l'un de l'autre. Puis après un court silence. Mais pour que vous puissiez le voir, dit en souriant le docteur, il faut d'abord que je puisse, moi, vous rendre la vue. Et il est indispensable. Oui, je sais, je vous comprends, monsieur le docteur. Il est indispensable que je n'aie plus ni tristesse, ni angoisse, ni larmes. Soyez sans crainte, je me sens à présent pleine de force, de courage. Tenez, regardez-moi. Est-ce que mon visage ne vous dit pas que je suis calme? Que je suis heureuse et prête à me soumettre, dès que vous le voudrez, à notre grande opération. À merveille, dit le docteur. C'est une bonne journée que celle-ci, et qui nous fera rattraper bien du temps perdu. Le docteur Hébert put constater, en effet, au bout de quelques jours, une amélioration très sensible dans l'état général de Louise. Il lui annonça donc, ainsi qu'à la comtesse, qu'il ne tarderait plus à pratiquer l'opération. « Je suis prête, monsieur le docteur, dit Louise. Vous pouvez choisir le jour qui vous conviendra. Vous me trouverez forte et calme. » Il n'en fut pas de même de la comtesse. Diane, qui avait tant désiré voir se réaliser ses chères espérances, éprouva une violente commotion au cœur quand elle apprit que l'heure suprême était prochaine. Elle devint subitement d'une pâleur mortelle, et attirant Louise dans ses bras, elle la tint serrée contre sa poitrine, elle embrassa la jeune fille longuement, comme si sa tendresse ne pouvait arriver à se rassasier, et des larmes s'échappèrent de ses yeux. Monsieur Hébert dut intervenir pour mettre fin à cette scène touchante. « Madame la comtesse, dit-il à voix basse, souvenez-vous de mes paroles d'autrefois. « Je la soignerai, vous disais-je. Dieu la guérira. » Diane leva les yeux et ses regards rencontrèrent ceux du docteur. Monsieur Hébert ajouta d'un ton plein de bienveillance paternelle. « La science va faire tout ce qu'on peut attendre d'elle. Le reste est du domaine de la Providence. » « Et quand comptez-vous entreprendre cette opération ?» demanda la comtesse en s'efforçant d'affermir sa voix. « Bientôt. Demain. »«
Demain ?»
s'exclama Diane. Le docteur Hébert fit un signe affirmatif, tandis que de son côté, Louise répondait à l'exclamation de la comtesse par ces mots. « Oui, le plus tôt possible, monsieur le docteur, car il me tarde de connaître mon sort. À demain donc, puisque vous l'avez décidé, docteur. Dites-moi quels préparatifs je dois ordonner. D'abord, nous avons à choisir dans cet hôtel la pièce qui doit être réservée à notre cher petit ami. « Choisissez, docteur, dit la comtesse. Mon appartement tout entier est à votre disposition. » Nous choisirons la chambre la plus sombre, non pour y pratiquer l'opération, qui exige au contraire une grande clarté. Mais, ajouta-t-il, quand j'aurai fait disparaître le nuage qui obscurcit la vue de Mademoiselle Louise, ses yeux vont acquérir tout à coup, et par ce fait même, une extrême sensibilité. C'est alors qu'il faudra éviter à ses beaux yeux toute sensation provoquée par une lumière trop vive, remplaçant tout à coup les ténèbres. « Je vais vous faire visiter les uns après les autres tous les salons, toutes les chambres. Venez, docteur. » Et acceptant le bras que lui présentait M. Hébert, Diane se retira profondément impressionnée. « Voici bien un charmant petit boudoir, dit le médecin, s'arrêtant au seuil de l'une des pièces, et qui fera merveilleusement notre affaire. Le jour y est excellent. Je ne puis rien souhaiter de mieux, et je vais tout de suite procéder à ma mise en scène. » Il déplaça le canapé qu'il traîna devant la croisée, tout prête à recevoir l'aveugle, de façon que le corps pût se trouver étendu comme dans un lit. « Maintenant, fit-il, ce guéridon-là, à portée de la main, avec les instruments et les accessoires que j'apporterai. Voici votre boudoir transformé en salle d'hôpital, madame la comtesse. Il m'eût été plus commode de faire venir chez moi notre jeune ami, mais j'ai réfléchi que ce serait vous l'enlever pendant plusieurs semaines. « Et quoi, docteur? Il faudra attendre aussi longtemps le résultat que vous espérez obtenir ?» « Oui, madame la comtesse. » Tout était donc convenu pour le lendemain. Il ne restait plus qu'à prévenir monsieur de Lignières de l'événement qui se préparait. Le docteur se chargea de ce soin. Au moment où il se présentait dans l'antichambre, précédant le cabinet de travail du lieutenant de police, Picard s'y trouvait en grande conversation avec l'huissier. Il était question entre les deux hommes de la guerre américaine. Depuis que son jeune maître était parti avec le général de Lafayette, Picard ne rêvait plus que de batailles rangées, de combats meurtriers, d'assauts et de carnages. Il s'était fait raconter par l'huissier du ministère de la Marine tout ce que celui-ci savait, pour l'avoir lu dans les anciens rapports transmis au ministère, relatant les combats acharnés que Français et Anglais s'étaient livrés, il y avait plus de 20 ans, sur les bords de l'Hudson, alors que nos compatriotes, avec l'alliance de certaines tribus indiennes amies, taillaient en pièces les troupes aguerries que Sa Majesté George II, roi de la Grande-Bretagne, faisait continuellement partir de la métropole pour nous disputer les colonies de l'Amérique du Nord. Picard s'enthousiasmait à ces récits des hauts faits d'armes des Français qui, avec quelques poignées d'hommes, soutenaient une lutte gigantesque, traversant d'immenses plaines, escaladant des montagnes escarpées et se frayant un passage à travers des forêts vierges pour aller à la rencontre de l'ennemi. L'amour-propre national de Picard s'exaltait au point qu'il interrompait le récit en s'écriant « Et nous aussi nous traverserons des forêts vierges. S'il en reste, nous aussi nous lutterons contre tous les obstacles et nous nous couvrirons de gloire sur les bords des grands lacs ou dans les défilés des hautes montagnes. » Puis, tout frémissant encore de cette ardeur guerrière, le vieux serviteur venait faire preuve de son érudition de fraîche date auprès de l'huissier et du lieutenant de police, au grand ébahissement du brave homme qui, n'ayant pas le moins du monde l'esprit tourné aux choses militaires, ne comprenait pas que l'on s'entretuât ainsi. Quand le docteur Hébert parut dans l'antichambre, le valet de Roger s'inclina, et tandis que l'huissier allait annoncer la visite au lieutenant de police, il s'approcha respectueusement. « Monsieur le docteur, dit-il, vient peut-être demander si nous avons reçu des nouvelles de notre cher et valeureux maître, monsieur le chevalier de Vaudrey. » « Pas le moins du monde, interrompit le médecin. D'abord parce que je sais que l'expédition doit avoir à peine abordé les côtes d'Amérique. Ensuite, parce que j'ai de graves préoccupations au sujet d'une autre personne, de notre petit aveugle. » À ce moment, l'huissier ouvrit la porte et introduisit le médecin dans le cabinet du lieutenant de police. Toutes les dispositions avaient été prises. Le docteur Hébert était parti, annonçant qu'il reviendrait le lendemain matin afin de procéder à l'opération. La soirée qui suivit fut une soirée d'anxiété générale. M. de Lignières s'était retiré de bonne heure. Diane demeurait silencieuse et profondément absorbée. Les deux jeunes filles se tenaient à distance dans un coin du salon. Henriette avait été, en raison de cette grave circonstance, invitée à rester cette nuit-là à l'hôtel de Lignières. Pour la première fois depuis qu'elles avaient été brusquement séparées sur le Pont-Neuf, à leur arrivée à Paris, les deux orphelines allaient coucher comme autrefois chez Madame Gérard dans le même lit. Elles se trouvaient heureuses de cette circonstance qui leur permettrait de causer longuement avant de s'endormir, ainsi qu'elles avaient l'habitude de faire quand elles étaient petites filles. Aussi leur semblait-il que la soirée se prolongeait beaucoup. Et ce fut avec un soupir de satisfaction qu'elles accueillirent la permission que leur donnait la comtesse de Lignières de se retirer dans leur chambre. « Vous me remplacerez auprès de Louise pour cette fois, » dit Madame de Lignières, s'adressant à Henriette, qui, ayant passé le bras de l'aveugle sous le sien, s'apprêtait à la conduire dans sa chambre, qui, on se le rappelle, n'était séparée de celle de la comtesse que par un couloir. Diane embrassa les deux jeunes filles et les conduisit jusqu'au seuil. Elle avait hâte d'être seule, elle aussi, pour s'abandonner entièrement et sans témoin aux réflexions douloureuses qui assaillaient sa pensée depuis qu'elle savait l'opération décidée irrévocablement pour le lendemain. Quand les deux orphelines se trouvèrent dans cette petite chambre que la comtesse avait voulu coquette et délicieusement ornée, comme si la pauvre aveugle qui devait l'habiter eût pu se rendre compte de tout le luxe de bon goût qui avait présidé à l'aménagement. Henriette attira son amie dans ses bras et les retint étroitement serrées en s'écriant « Oh, ma Louise bien-aimée, nous voilà réunis comme nous l'étions jadis dans notre petite chambrette d'Évreux. Je suis heureuse, Henriette, bien heureuse, je t'assure. Il me semble que nous n'avons jamais été séparées l'une de l'autre et que c'est hier que nous sommes descendues du coche. » Elle poussa un soupir de joie, puis embrassant à son tour Henriette. « Quand je te sens près de moi, je me figure être encore au jour de notre enfance. Nous restions longtemps, bien longtemps, assises sur le lit, à causer tout bas des 1000 choses qui nous venaient à l'esprit. Tu avais vu pour moi pendant la journée, tu me contais tout ce que tu avais vu, et j'oubliais que j'étais aveugle. Eh bien, chérie, demain tu ne seras plus aveugle du tout, et dans quelques jours tes yeux seront charmés par la vue de toutes les merveilleuses choses qui se trouvent réunies dans cette grande ville de Paris. » Et serrant avec tendresse la main de l'aveugle, « Comme il doit te tarder de ne plus être dans les ténèbres !»« Oh oui !» répondit Louise. « Admirer toutes ces merveilles dont tu parles, ce doit être une très grande joie, un très grand bonheur. Mais il existe une joie plus grande encore, un bonheur 100 fois plus précieux. » Et s'animant au souvenir de Pierre, elle ajouta d'une voix que faisait trembler l'émotion, « Voir en face de soi et pouvoir enfin regarder ceux dont la pensée occupe toute notre âme et dont le visage nous est inconnu. S'assurer que leurs traits sont bien réellement empreints de l'expression de douceur, de bonté, de tendresse qu'on leur prêtait. Lire dans leurs regards et pouvoir se dire enfin « Mon cœur ne s'était pas trompé et son image est bien telle que je la rêvais. » « C'est de la comtesse que tu parles ?» interrompit vivement Henriette. « De la comtesse, oui, oui !» répondit Louise, subitement rendue à elle-même. « C'est de la comtesse qu'il s'agit. Quelle autre affection pourrais-je avoir conçue ?»« Tu m'en aurais confié le secret, ma chérie, car nous nous aimons. Comme autant nous étions deux pauvres orphelines, » dit Louise. « Orpheline, » répondit Henriette, « est-ce que nous avons cessé de l'être ?»« Je ne le suis plus, » dit Louise. Depuis le jour où s'est tendue vers moi la main secourable de Madame de Lignières. Je ne le suis plus depuis que je me sens entourée de cette tendre affection à laquelle je serais bien ingrate de ne pas répondre par une tendresse filiale. C'est vrai, tu as réellement une mère. Et toi-même, ma sœur, ne sais-tu pas que la comtesse considère le chevalier comme son véritable fils, et lorsque vous serez unis l'un à l'autre, n'auras-tu pas, ainsi que moi, une mère bien-aimée ? C'est encore vrai, dit Henriette. D'une voix attendrie, après tant de souffrances et de larmes, le ciel nous a pris en pitié. Et les deux jeunes filles, doucement bercées par des rêves d'espérance et de bonheur, gardèrent le silence. Elles ne dormaient pas, cependant. Chacune d'elles murmurait tout bas un nom. Le nom de Pierre et celui de Roger. Diane aussi veillait. Après être demeurée dans sa chambre pendant plus d'une heure, à prier pour la réussite de l'opération qui devait être pratiquée le lendemain, elle ne put résister plus longtemps à la tentation d'aller dans la chambre où reposaient les deux orphelines. Elle se glissa furtivement par le couloir et écouta à la porte. Aucun bruit de voix ne parvenant jusqu'à elle, Diane se risqua à soulever le loquet doucement et avec d'infinies précautions, elle marcha jusqu'au chevet du lit. Elle s'arrêta, haletante, pour écouter le bruit de la respiration des deux dormeuses. Et son cœur de mère battit bien fort à l'idée que dans quelques jours, sa fille, cette Louise tant pleurée autrefois, ouvrirait ses grands yeux pour la regarder, la voir, qu'elle lui sourirait. Affolée d'espoir, toute tremblante d'émotion, la comtesse n'y tint plus. Elle se pencha et, doucement, elle effleura de ses lèvres le front de son enfant. Songeant à la profonde tendresse qui l'unissait à Henriette, qui pendant de longues années l'avait remplacée auprès de sa Louise, elle se pencha de nouveau et sur son front aussi déposa un baiser. Puis, le cœur tout ému, elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Et quand la porte se fut refermée, Louise murmura à l'oreille de son amie, « Tu vois bien que nous ne sommes plus orphelines. » Lorsque le docteur Hébert se présenta, tout le monde était déjà depuis longtemps sur pied à l'hôtel de Lignières. Le comte était allé s'enfermer, plutôt que d'habitude, dans son cabinet de travail, laissant la comtesse à ses maternelles préoccupations. Diane était dans un état d'agitation extrême, bien qu'elle fît tout le possible pour dissimuler ses impressions. De grand matin, elle s'était rendue dans la chambre où elle s'attendait à trouver Henriette et Louise encore couchées et dormant peut-être encore. Mais les deux jeunes filles étaient déjà levées et habillées. Assises l'une à côté de l'autre, elles causaient à voix basse lorsque la comtesse, ayant ouvert la porte avec précaution, se trouva tout à coup devant elle. Henriette se leva aussitôt pour saluer Diane. Mais déjà celle-ci s'était avancée et prenait à deux mains la tête de l'aveugle qu'elle embrassait longuement sur les deux joues. « Comment, mon enfant ? » dit-elle d'un ton de doux reproche. « Vous n'avez donc pas dormi ?» Et son regard inquiet interrogeait Henriette. « Nous avons causé, madame la comtesse. Nous avions tant de choses à nous dire. Car depuis bien longtemps, nous n'avons plus l'habitude de partager le même lit. » Puis adressant un sourire à madame de Lignières, « Louise me parlait, madame la comtesse, de la profonde affection qu'elle ressent pour vous. Elle me disait encore combien il lui tarde que monsieur le docteur arrive. Cher enfant. Oui, madame, reprit l'aveugle, il me tarde de vous voir. Diane, pour cacher l'émotion qu'elle éprouvait, prit Louise par la main et la conduisit dans le salon attenant à la pièce que la veille monsieur Hébert avait disposée pour l'opération. Henriette l'y suivit, et quand elles furent toutes trois réunies, Diane leur annonça que le docteur ne tarderait pas à venir. Il est arrivé, dit le docteur, qui parut à ce moment même sans avoir permis à Picard de l'annoncer. Monsieur Hébert ne voulut pas laisser une minute de réflexion à l'aveugle, chez laquelle il redoutait une défaillance qui pouvait se produire au dernier moment. Il demanda à la comtesse la permission de passer immédiatement dans la pièce où, depuis la veille, tout avait été préparé. Et il prit Louise par la main en lui disant « Venez, mon enfant, vous voyez que je vous tiens ma promesse. À vous maintenant de ne pas oublier la vôtre. Vous m'avez promis d'être calme et forte. » « Je le serai, monsieur le docteur. » On était arrivé dans le boudoir. La comtesse et Henriette s'avançaient pour aider le docteur si besoin était. Monsieur Hébert leur fit de la main signe de s'arrêter. « Je n'ai besoin de personne, dit-il, et je craindrais qu'une émotion trop vive de votre part provoquât chez notre jeune ami quelques mouvements involontaires. Donc, je vous recommande de demeurer là, où vous êtes, pendant que je vais moi-même faire prendre à cette chère enfant la position qui convient. » Il conduisit Louise jusqu'au canapé et l'aida à s'y étendre, comme aurait pu faire une mère présidant au coucher de son enfant. Il prit soin de lui placer un oreiller sous le cou, de façon que la tête fût maintenue absolument droite, sur la même ligne que le corps. « Je suis prête, » dit l'aveugle d'une voix assurée, et pendant les quelques instants que durèrent les préparatifs, elle ne bougea plus. Diane et Henriette, restées sur le seuil, avaient joint les mains et priaient mentalement. Monsieur Hébert ouvrit la trousse, y prit une lancette finement affilée. C'était le moment suprême. Le docteur sembla se recueillir. On eût pu voir sur son front perler une rosée de sueur, jaillissant subitement. Mais cette émotion ne dura qu'une seconde. Monsieur Hébert dit à Louise, « Ouvrez bien grand les yeux, mon enfant. » Et tandis que de la main gauche il soutenait la paupière supérieure, il fit de la droite une incision entre la cornée et la sclérotique, puis appuyant sur la cornée, il fit jaillir par l'incision qu'il venait de pratiquer une sorte de petit verre dépoli de la forme d'une lentille. C'était le cristallin qui, ayant perdu sa transparence, empêchait les rayons lumineux d'arriver jusqu'au nerf optique. L'opération n'avait duré que quelques secondes. « À l'autre maintenant, » prononça le docteur. Et quelques secondes après, il saisit la bande de fine toile qui se trouvait sur le guéridon, à portée de sa main. Avec une dextérité remarquable, il recouvre les yeux de Louise, d'un bandeau épais qui doit intercepter complètement la lumière. Tout joyeux alors, il se retourne vers Diane et Henriette en s'écriant « Vous pouvez approcher maintenant, c'est fini !» La comtesse eut un long tressaillement et regardant le médecin avec des yeux pleins d'anxiété, elle lui demanda à voix basse « Y verra-t-elle, docteur ?»« Vous savez ce que je vous ai dit, comtesse, c'est maintenant Dieu qui répondra dans quelques jours. » À l'hôpital Saint-Louis, Pierre attendait avec plus d'impatience ce jour-là que les autres la visite du docteur Hébert. Aussi, lorsque le médecin parut sur le seuil de la chambre, le jeune homme eut-il un mouvement pour quitter le fauteuil sur lequel il était condamné à rester la jambe étendue. « Tout beau !» dit Monsieur Hébert en arrêtant d'un geste l'élan de son protégé. « Vous vous croyez donc déjà solide au point de commettre des imprudences ?»« Encore un mouvement comme celui-là, monsieur l'ex-boiteux, et je retarde les béquilles de 15 jours encore !» puis s'avançant pour serrer la main de Pierre. « Eh bien, c'est fait, mon ami » ajouta-t-il avec un sourire. « Et si mes prévisions se réalisent, mademoiselle Louise y verra des deux yeux en même temps que vous pourrez hardiment marcher droit sur vos jambes. » Pierre voulut parler, mais l'émotion lui ôtait la voix. Son visage prit alors une grande expression de joie. Ses yeux brillèrent et ses joues s'enluminèrent d'un vif incarnat. On aurait eu peine à reconnaître en ce beau garçon, au visage si doux, aux traits si réguliers, le pauvre rémouleur au teint hâlé d'autrefois, au regard éteint et dont la physionomie reflétait la souffrance. En quelques mois, la transformation s'était opérée complète, non seulement dans la physionomie de l'individu, mais aussi dans son intelligence qui se développait rapidement. Pierre était désormais en état de faire très bonne figure partout où il se présenterait. Chaque jour, M. Hébert, ravi, avait constaté un nouveau progrès chez celui dont il avait voulu faire un homme dans toute l'acceptation du mot. « Allons, allons, dit-il, du calme, pas tant d'émotion pour l'instant. Il faut en réserver un peu pour des circonstances autrement importantes, qui peuvent se produire bientôt dans votre existence. » Pierre put enfin balbutier quelques phrases de remerciement. Puis s'animant, il témoigna avec une réelle éloquence de cœur toute la reconnaissance qu'il ressentait pour le docteur qui venait de rendre la vue à sa chère aveugle. Il en parlait même avec tant de chaleur que M. Hébert lui fit observer, avec une nuance de malice, que c'était presque une révélation d'amour qu'il faisait là. Ce fut la goutte d'eau froide qui éteignit subitement les transports d'enthousiasme du jeune homme. Pierre baissa la tête comme un écolier surpris en faute. « Causons d'abord de vous, mon ami, » continua le docteur. « Je n'avais pas seulement cette excellente nouvelle à vous apporter. Ce doit être, je le reconnais, une grande joie pour vous de savoir votre ancienne petite protégée sur le point de recouvrer la vue. Mais cela ne suffirait pas, je suppose, à votre bonheur. « Si fait !» s'exclama Pierre en portant vivement la main à son cœur, comme pour témoigner de sa sincérité. Et il ajouta plus bas. « Est-ce qu'autrefois je n'aurais pas supporté, sans me plaindre, toutes les misères, subi tous les mauvais traitements, pour apporter un peu de soulagement aux souffrances de cette pauvre chère demoiselle ? Est-ce que pour la sauver, je n'étais pas résolu à faire le sacrifice de ma vie ?» Et d'une voix plus grave, il ajouta. « Est-ce que je n'ai pas sacrifié sa vie, à lui, mon... » À ce souvenir donné à la mort de Jacques, le jeune homme devint d'une pâleur livide et ses traits se contractèrent, disant le remords qui lui troublait la conscience. M. Hébert l'interrompit par ces mots prononcés d'une voix grave. « Ce n'est pas vous, mon ami, qui l'avez frappé. J'ai examiné très attentivement la blessure de ce malheureux, et j'affirme que dans sa fureur aveugle, il s'est jeté lui-même sur le couteau dont vous étiez armé. J'affirme que vous pouvez vivre en paix avec votre conscience, et que vous avez été l'instrument dont s'est servi le ciel pour punir un coupable. Oubliez donc ce douloureux passé. Relevez la tête, mon ami. » Et souvenez-vous que vous avez l'estime et l'affection d'un homme qui n'a jamais transigé avec l'honneur. « Ah !» s'écria le jeune homme ému jusqu'aux larmes et portant vivement les mains de son bienfaiteur à ses lèvres. « C'est le baptême pour une existence nouvelle que vous me donnez en ce jour. Et cette existence sera, je vous en fais le serment, consacrée au souvenir de vos inépuisables bontés. « Bon, bon, mais je vous permettrai, mon jeune ami, » interrompit le docteur en souriant, d'en consacrer une notable partie à une autre personne. Tout faisait prévoir maintenant qu'après les aventures si dramatiques qu'avaient traversées les deux orphelines et Pierre le Rémouleur, il n'y eut plus qu'à attendre et à espérer pour eux une existence désormais heureuse. M. Hébert ne doutait pas que dans quelques semaines, Louise et Pierre n'auraient plus besoin des secours de la science. Quant à Henriette, l'excellent homme admirait la résignation qu'elle s'imposait depuis le départ du chevalier. Mais, intérieurement, il était obligé de s'avouer qu'il n'était pas sans inquiétude au sujet de Roger. Car M. de Vaudrey était en ce moment, pensait-il, exposé à tous les hasards de la guerre.